L'histoire avec vous, Laure d'Autriche, on parle beaucoup en ce moment de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, les anti-vaccins. Eh bien, bah, c'est un point de vue qui remonte assez loin dans l'histoire.
Oui, et il faut remonter au début du XVIIIe siècle pour comprendre le phénomène anti-vaccin. À l'époque, il y a des épidémies de variole. Le vaccin n'existe pas, mais une technique commence à être à la mode parce qu'elle a été rapportée de l'Empire ottoman par une Anglaise. Une technique pour développer des anticorps, une résistance. C'est ce que détaille Antoine Houlou-Garcia, historien des sciences, auteur du Théorème d'Hippocrate aux éditions Albin Michel, qui parle notamment du vaccin.
C'est la variolisation, c'est-à-dire de se faire injecter volontairement une variole peu virulente pour développer des anticorps, pour développer une résistance tout simplement immunitaire. Alors, il y a des gros débats, et notamment en France, où des gens comme D'Alembert, par exemple, celui de l'encyclopédie Diderot et D'Alembert, va être très opposé à la variolisation, alors que, par exemple, Voltaire va être beaucoup plus favorable à cette technique médicale.
Et lorsqu'un vaccin contre la variole sera créé en 1796, eh bien le docteur qui l'a créé sera accusé d'imposture, de cupidité par des praticiens eux-mêmes, hein, et des praticiens français notamment. Contrairement à l'Angleterre, en fait, la France, à l'époque, a plus de mal à admettre cette nouvelle manière de faire de la médecine. Et bien plus tard, en France, en 1880, le docteur Pigeon, parvient à écarter la loi qui le rend le vaccin obligatoire. Et cette victoire entraîne la fondation d'une Ligue internationale des anti-vaccineurs qui met en avant régulièrement l'argument financier, l'argument dépensé par l'État pour cela.
Et même quand on pense à Pasteur, hein, qui a trouvé le vaccin contre la rage, au début, il est très critiqué.
Et oui, et on parle de l'Institut Pasteur comme d'une usine à virus qui fabrique des maladies à l'époque. Alors voilà, il va falloir attendre qu'on se rende compte des effets positifs de la vaccination comme un moyen de sauver des vies en quantité énorme. Et ensuite, ce sera accepté dans les décennies qui suivent. Entrecoupé par le terrifiant bilan de 25 à 50 millions de morts de la grippe espagnole en 1918-1919, les deux guerres mondiales vont changer la donne et on prônera notamment la vaccination des soldats. Mais finalement, c'est à la fin du XXe siècle que les anti-vaccins reviennent sur le devant de la scène, si j'ose dire, avec une étude publiée en 1998 par un Anglais qui veut montrer qu'il y a un lien entre le vaccin ROR, la rougeole au rayon rubéole, et l'autisme.
Cette étude, il l'amène sur 12 enfants, ce qui est quand même très faible, mais surtout, il l'invente en quelque sorte, dans la mesure où il recrute les enfants en question, qui sont étudiés dans cette analyse scientifique, il les recrute justement pour les symptômes qu'ils ont déjà. Et en plus de cela, il invente des symptômes autistiques à certains des enfants. L'ensemble de l'étude est vraiment fondée sur rien.
Et il va falloir 12 ans pour que cet homme soit radié de l'ordre des médecins et jugé, mais cette étude va avoir un impact colossal avec des campagnes de non-vaccination récemment qui ont été menées encore sur la base de cette étude. Les oreillons, par exemple, ont refait leur apparition en 2009 à New York, la coqueluche en 2010, qui ont provoqué la mort de beaucoup d'enfants.
Et voilà, le vaccin, on en parle quasi quotidiennement. Qu'est-ce qu'il est important, ce vaccin qu'on attend? Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et merci beaucoup à vous, Virginie Riva, d'avoir été la Madame Environnement de notre cher week-end.
À la semaine prochaine.